poche sous les yeux, l'émission.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, il est midi, puis du passé, hein, midi 10 même. C'est l'heure de retrouver la fine équipe de Dépoche sous les yeux, l'émission, avec son plein de chroniqueurs, de livres, de BD et d'interviews. Nous sommes en direct du péristyle de la mairie de Tours à l'occasion du marché de Léon, waouh, le marché de Noël made in béton, où nous vous attendons, comme chaque année, nombreuses et nombreux pour découvrir des créateurs de bon goût, en circuit court, biodégradable, j'en passe. Bref, de quoi remplir votre hôte responsable pour que vous aussi, vous puissiez vous prendre pour le Père Noël. Je sais que vous en aviez rêvé, pas autant que de devenir Premier ministre, mais comme vous n'avez pas reçu de coup de fil hier à 5h du mat, et ben vous avez fait une croix sur ce destin politique. Mais vous avez encore une chance pour devenir Père Noël, donc venez ici au marché de Léon remplir votre belle hotte de cadeaux, super cadeaux. Mais d'ailleurs, Pascal, ce marché de Léon, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Qu'est-ce que c'est ?
Tu veux reprendre l'histoire au début, c'est ça ?
Non, mais elle n'est pas si vieille, cette histoire.
Alors, c'est la sixième fois, je crois. Hein, c'est un marché de Noël des décalés. Voilà. C'est pour ça que c'est le marché de Léon. C'est garanti 100 produits qui viennent de loin.
Hein, sans phosphate.
C'est du local, c'est de l'upcycling. Voilà, donc c'est du bon et du meilleur. Voilà.
D'accord. Et donc ça se passe samedi et dimanche ?
Samedi et dimanche, voilà. Donc c'est samedi 10h, 20h, dimanche 10h, 18h.
Voilà. D'accord. Il y a combien d'exposants à peu près ?
45 exposants.
45, comme l'année dernière ?
Dans le même genre, oui. Avec des gens qui viennent de la Touraine, mais aussi de plus loin.
D'accord. Si j'ai pas trop aimé les exposants de l'année prochaine, est-ce que je viens quand même parce qu'il y en a des nouveaux ?
De l'année dernière, tu veux dire ?
L'année dernière, oui, bien sûr.
Eh bien, oui, tu peux venir car on recycle nos exposants.
Vous recyclez les exposants ?
Non.
Vous faites du upcycling. C'est génial.
Ce ne sont pas tous les ans les mêmes exposants. Voilà,
d'accord. Et alors, il y a à boire et à manger parce qu'il fait un peu frais quand même, hein.
Ah ben, y a du vin chaud naturellement, il y a des panini, il y a à boire, il y a un bar quoi.
Oui, j'ai vu, il y a des huîtres même.
Exactement.
Ok. Et il y a aussi de quoi faire des cadeaux aux couleurs béton.
Exactement, il y a un stand merch, voilà, avec la digigraphie qui est toute chaude de l'affiche d'Au quart d'hiver, voilà, qui vient d'arriver.
Au quart d'hiver ?
Au quart d'hiver, voilà.
Qu'est-ce que c'est que ce truc ?
Du 28 février au 1er mars, ça sera entre le soleil et le point haut, voilà.
Génial.
Et l'affiche est très belle. Elle est déjà ici en vente sur le stand merch.
Bon, et donc, voilà, on vous attend tous, chers auditeurs, aujourd'hui jusqu'à 20h et demain jusqu'à 19h dans le péristyle de la mairie de Tours pour faire le plein de cadeaux de bon goût pour mettre au pied de votre sapin en papier mâché. Hein, parce que c'est fini les sapins végétaux. Voilà, donc venez tous. Et puis, voilà, vous allez pouvoir rencontrer des créateurs depuis chez nous. Merci Pascal pour toutes ces informations. Alors, depuis 3 mois, nous profitons de nos directs pour partager avec vous des remixes sonores de Fab Caro, extrait de Moins qu'hier, plus que demain. Et c'est toujours émouvant.
T'as encore fait n'importe quoi comme course. Je te mets sur la liste. T'en pax normaux, et toi tu me prends de la tapenade.
Faut dire que t'écris super mal aussi.
Putain, tu crois que je t'aurais envoyé acheter de la tapenade parce que j'ai mes règles ? J'espère au moins que tu as pensé à mon mascara.
Ok, alors c'était pas Macédoine.
C'est notre premier exposant qui nous fait le plaisir de nous rejoindre, car cette année, l'émission, c'est avec des exposants dedans. Voilà, on a choisi de mettre la barre assez haut. Et c'est Cloumi que nous retrouvons avec nous ce midi. Bonjour.
Bonjour. Merci de m'accueillir, c'est cool.
Voilà.
Ça fait plaisir d'être là.
Alors, tu es là pourquoi en fait ?
Je sais pas. Voilà. Moi, j'ai vu de la lumière, donc je suis venu.
Voilà.
Et puis,
tu es graphiste.
C'est ça, je fais des... Alors, je suis pas graphiste, je suis illustrateur, on va dire.
Illustrateur.
Ouais, parce que graphiste, il y a le côté, je maîtrise l'ordinateur et tout, et moi, je maîtrise pas l'ordinateur, donc... Je suis illustrateur, je préfère
old,
dire
old
ça.
School. Old,
voilà, c'est ça.
Old school. Ouais. Et ta technique de prédilection, c'est l'encre, le feutre, le stylo bille.
J'ai deux techniques, c'est le feutre. Et j'utilise des petits feutres fins. Et après, je colorie avec des feutres de couleurs.
D'accord, t'as des marques préférées
J'utilise des Faber-Castell.
D'accord, tu es sponsorisé par Faber-Castell.
Voilà, c'est ça. Quoi.
Tu aimerais bien
Ouais, ça serait cool, quoi.
Ok. Et donc, c'est quelque chose qui t'habite depuis tout le temps ?
Bah, non, pas tout le temps. Ça va faire, je pense, une douzaine d'années que je dessine, quoi. Je dessine un peu quand j'étais gamin, mais après, je n'ai pas redessiné. Je m'y suis remis il y a une douzaine d'années.
Par hasard.
Et voilà, par hasard. Et j'ai fait mon premier marché de créateurs en 2019, ici.
Yes.
Pour le marché de Léon. Et j'ai halluciné de voir à quel point ça faisait marrer les gens, ce que je pouvais faire. Donc, moi, ça m'a fait trop plaisir aussi. Et ça m'a forcé à continuer.
Et tes sources d'inspiration, Chloé ?
Qu'est-ce que ça peut être ? J'aime bien l'humour absurde.
D'accord.
Alors, je sais pas, Anouk Ricard ou Pierre Lapolis.
D'accord.
Qu'est-ce que... Ouais, Fab Caro.
Bien sûr. Et donc, tu te lances dans la bande dessinée ou tu oses raconter des histoires ou...
Ouais, doucement, quoi. C'est vrai que... Ah oui, c'est vrai.
Voilà. Ouais. Puisque effectivement on en parle, tu as commis Happy Hour avec Étienne Bonnet qu'on verra tout à l'heure sur à l'antenne. Tu peux nous en dire un peu plus ?
Ouais, donc en fait, c'est en avril de cette année, j'ai contacté Étienne, je lui ai dit ça te dit on fait une petite BD tous les deux. Alors l'idée c'était de faire un strip, c'est-à-dire un truc en trois cases. Donc on s'est retrouvé un mercredi après-midi au bar La Grande Ours.
Tu fais des strips avec Étienne ?
Exactement, quoi.
C'est dégueulasse.
Et donc on en a fait un, on en a fait deux, on en a fait trois. Puis après, on s'est dit, bah, tant qu'on a des idées, on se retrouve le mercredi. Et puis, au final, ça a donné un petit livre qui est plutôt sympa. Quoi.
D'accord. Et donc, on peut retrouver sur votre stand parce que
Exactement.
Vous tenez un stand en commun.
Voilà. Et on fait des dédicaces à la chaîne.
À la chaîne.
À la chaîne.
Et donc, c'est ça la queue qui sort du péristyle. C'est pour vous.
Exactement ça, quoi.
Incroyable.
Il y a un bouchon sur notre stand, c'est fou. Quoi.
D'accord. Et c'est ton premier livre ou tu as déjà
publié... On va dire c'est mon premier livre avec une tranche, avec un dos carré collé. Quoi.
D'accord, d'habitude c'est agrafé.
Ouais, sinon c'est agrafé. Moi ça fait.
Dans ton garage, tu fais ça.
C'est ça. Des années que je sors des petits fanzines, des petits bouquins d'une vingtaine de pages en petit format carte postale.
Et qu'on peut trouver où alors toute ta production locale ? Tu as un site internet ?
Non, j'ai pas de site internet. J'ai un compte Instagram. Et sinon, on peut en trouver à Bédélire. Je crois que c'est le seul endroit où on peut en trouver. Peut trouver mes petits fanzines.
Parce que tu as eu la flemme de démarcher ou...
Ouais, c'est un peu ça, quoi. Ouais, je sais pas comment on fait un site internet. Je sais pas comment on fait pour vendre des trucs en ligne. Donc, c'est par simplicité, en fait.
Il n'y a pas un agent qui t'a dit « Je prends 50% de tes gains et je vais m'occuper de ta carrière. »
Même pas, j'attends. S'il y a quelqu'un qui écoute l'émission s'occuper de mon site internet.
Quelqu'un qui serait en Master 2 en alternance, tu vois.
Voilà, carrément. Quoi.
Typiquement.
Ouais.
Bon. Et moi, j'ai découvert la première fois tes petits personnages pour illustrer une nouvelle ou une micro-nouvelle que tu avais commise pour Radio Béton, un concours que l'on va d'ailleurs bientôt relancer. J'en parlerai tout à l'heure. Et c'est ça, il y a une dizaine d'années.
Ouais,
et
c'est ça, je crois que c'était en 2017.
Et avant, tu dessinais pas alors, tu t'avais...
Non, avant, moi je dessinais pour moi, je dessinais dans des carnets. Je montrais les carnets à des potes, alors ça les faisait marrer, mais je dis bon, ils sont sympas les potes, ils se marrent parce qu'ils sont gentils quoi. Mais...
Donc là, tu prends la confiance.
Ouais, si on veut. Mais...
Ouais. Et alors sur ton stand, qu'est-ce qu'on trouve ?
Bah, on trouve plein de petites BD, on trouve pas mal de cartes postales. Et puis des reproductions aussi de format A4 de, je sais pas, par exemple, l'hôtel de ville de Tours est dessiné, ou la place Plumereau, les lieux emblématiques de Tours.
Bon, et donc, c'est quoi ton prochain projet ?
Prochain projet ? Là, j'ai un truc qui traîne depuis pas mal de temps. C'est un livre de blagues. En fait, j'ai illustré des blagues que mon père m'a filées, quoi. Donc, ça s'appellera Les blagues à papa.
Les blagues à papa.
Voilà. Et c'est des blagues illustrées de mon père. Quoi.
D'accord.
Voilà.
Donc tu le vendras essentiellement à ta famille.
Voilà, c'est ça. Et à Bédélire aussi.
Et l'année prochaine ou l'année d'après au marché de Léon.
Voilà, exactement.
Ok, alors comme on est dans Des poches sous les yeux, qui est, paraît-il, une émission à vocation littéraire, est-ce que tu es venu avec un livre dont tu voudrais nous parler ?
Oui, je suis venu avec un petit livre rouge qui s'appelle Le sens de la vie. Et c'est petit. C'est un livre d'Éric Veillé, édité aux éditions Cornelius.
Édition Cornelius.
Et donc, c'est une petite bande dessinée avec des illustrations en noir et blanc. Et ça se compose de... chaque page est indépendante. Et c'est des histoires en six cases.
Et ça s'appelle comment, des histoires en six cases ? Si les histoires en trois cases sont des strips ?
Ça doit s'appeler des strips aussi,
des double strips.
Ouais, des double strips, voilà. Et c'est de l'humour totalement absurde avec un dessin que j'adore. C'est assez minimaliste, en noir et blanc. Et je vais vous lire une petite histoire.
Avec plaisir.
Allez, pour que vous vous rendiez compte. Alors, je ne vais pas pouvoir retranscrire les dessins, mais je vous laisse imaginer. Vous trouvez ça normal, vous, de se faire lécher le visage le mercredi matin? Vous trouvez ça normal, vous, qu'on fasse la réunion dans un chamois? Vous trouvez ça normal, vous, d'habiter au premier étage sans aventure? Vous trouvez ça normal, vous, de partir en Zodiac récupérer des chiens? Vous trouvez ça normal, vous, de dessiner un phoque quand on s'appelle Bruno? Non mais franchement, voilà, c'est tout. C'est totalement absurde, c'est totalement débile. Et c'est ça pendant 150 pages. Voilà.
D'accord. Très bien. Eh ben, écoute, rappelle-nous un peu le titre, l'auteur et l'éditeur.
Ça s'appelle « Le sens de la vie et ses petits ». C'est de Éric Veillé et c'est édité aux éditions Cornelius.
Bon, un grand merci, Cloumy, d'être venu jusqu'à nous.
Merci à vous.
On te retrouve, toi et ton œuvre, sur le stand où tu te trouves avec Étienne Bonnet au péristyle de la mairie de Tours à l'occasion du marché de Léon.
Et ben, on vous attend nombreux sur le stand.
Merci à toi.
Merci beaucoup.
Bah, je dois vous dire que animer une émission littéraire, c'est pas facile. Figurez-vous qu'on a reçu une avalanche de courriels pour nous réclamer le retour de Daniel. Bien voilà, je ne sais pas quel livre il va chroniquer, je ne sais pas si c'est un livre ou une BD d'ailleurs, mais c'est pas grave, c'est un peu son côté artiste et c'est comme ça qu'on l'aime, Daniel.
Ah oui, c'est gentil. Je vais mettre un petit fond sonore parce que c'est le fond sonore du livre que je vais chroniquer, c'est pas une bande dessinée. Alors techniquement, c'est parti. Abdelataïa, je vais chroniquer le dernier livre d'Abdelataïa, Le Bastion des Larmes, aux éditions Julliard, 212 pages, et c'est pas très très cher, 21 €, ça va, sorti en août 2024. C'est le deuxième roman que je chronique d'Abdelataïa, toujours avec autant de plaisir. Alors, est-ce que c'est un roman autobiographique? Oui, assurément. On y côtoie ses cinq sœurs qui ouvrent et closent le récit. Ça se dit qui closent le récit?
Non, sans doute pas.
Alors, comment on dit?
Qui conclut?
Non. Pas d'accord.
Termine.
Oui, bref. Youssef, le narrateur, revient au Maroc pour vendre l'appartement hérité de sa maman. Il vit à Paris, Youssef, milieu cultureux, bobo, et toute la panoplie qui va avec. Il revient dans son pays natal, le Maroc, qu'il a quitté pour vivre librement. Parce que librement, au Maroc, c'est pas juste une vue de l'esprit. Hein. C'est pas forcément ça, hein. Quand on est homo, parce que le narrateur est homo. Et aujourd'hui, être gay au Maroc est puni par l'article 489 du Code pénal qui criminalise les actes licencieux ou contre nature avec un individu du même sexe. L'homosexualité est donc illégale au Maroc. Elle est punissable de 6 mois à 3 ans d'emprisonnement et d'une amende de 120 à 1200 dirhams. Ça fait entre 12 balles et 120 €. Donc il y a des sujets au Maroc à mettre sous le tapis et à ne jamais aborder en public si on veut y retourner en vacances. Voilà. Le Sahara occidental, c'est never. L'homosexualité, ça en fait un peu partie. Je ne sais pas si je vais pouvoir y retourner. À son retour, Youssef, donc, apprend la mort de Najib, son ancien amant, son amour de jeunesse avec qui il a découvert son homosexualité. Et dans le même temps, il nous brosse un récit assez éclairant de la trajectoire de Najib. Alors je résume, voilà. Alors voilà, Najib, elle a un petit ami et son prénom c'est Toufik. Colonel dans l'armée marocaine. Bon, en général, ça plaisante moyen sur l'homosexualité au Maroc. Mais Youssef, en plus d'être officier, il a un petit boulot, un cumul de rémunération lucratif dans le nord du Maroc. Vous l'aurez compris, il est à la tête d'un réseau de drogue. Soit autorité militaire plus revenu de ouf plus PDG d'une holding de deal de cannabis égale...
Va en prison.
Non, égal, je fais ce que je veux avec ma sexualité et le premier qui moufte, je le défonce. Je suis colonel quand même.
Yes.
Donc, en fait, personne ne moufte. Alors, il installe Youssef dans la caserne comme amant officiel, sans phare, comme ça, ciel ouvert, et ça marche. En France, le sport numéro un a longtemps été, non pas le foot, non, mais la délation. Et au Maroc...
Non, mais bah, c'est quoi cette réflexion anti-française,
Daniel ? Au Maroc, bah, c'est un peu une réalité quand même.
Maroc, je vais te dénoncer, tiens.
Ah, tu vois, ça l'avait dit. J'étais sûr. Et au Maroc, l'hypocrisie est une vertu cardinale. Quand on est sans protection homo au Maroc, on est à la merci des prédateurs. Et ils sont avides et ultra si on se réfère à l'état du cul ruisselant de sang de Najib hors protection. Au Maroc, il y a une face A qui condamne au nom des bonnes mœurs et de la sécurité morale, et la face B qui viole les Zamel au nom de pulsions inavouables. Petite digression sémantique.
Zamel.
Zamel. Alors, Zamel, il y a deux termes qui désignent le fait d'être homosexuel au Maroc, en arabe. Ataï désigne le membre actif, je ne sais pas si c'est bien ça, et Zamel, le côté passif. Donc, dans beaucoup de sociétés patriarcales, l'un est valorisé et l'autre est rabaissé et raillé. Ouais, quand même.
Zamel.
On est à l'os de la société marocaine et de ses trajectoires improbables. Le colonel a largué ses amarres conjugales pour aller s'implanter à Tétouan. Ok. Mais à sa mort, Najib, le Zamel, qu'est-ce qu'il fait? Il se retrouve sans protection. D'où la nécessité de s'enfuir et de retourner à Salé, d'où il venait. Un quartier de la ville de Salé qui s'appelle Aïs Salam. Le quartier d'enfance de Najib. Suivez là ou bien pas?
C'est pas sûr.
Ah, vous suivez pas? Un quartier où se situe le bastion des larmes, c'est le titre, ça, tu suis quand même.
Ah là, voilà.
Ah, un spot de recueillement et de souvenirs où on verse des pleurs face à l'océan sur les hauteurs de Rabat. Et là, miracle ou pas, il devient intouchable, un parrain, un bienfaiteur de l'humanité. Et comment on devient un bienfaiteur de l'humanité alors qu'on est homo? Le flous, la moula, l'oseille, à Tétouan, il est parti, certes, mais il est parti avec une VAE de drug dealer et il a acquis des compétences et règne à son tour sur un trafic florissant. Et de paria, il devient un héros, le patron du quartier, avec une respectabilité qui lui permettra même d'être inhumé dans le rituel, avec la toilette et tout, avec une scène assez hallucinante de masturbation post-mortem. Mais là, j'en ai déjà trop dit.
Merci Daniel pour cette virée marocaine. Je vais te demander, Daniel, de prendre ton téléphone parce que c'est toi qui va nous lancer la première pause musicale. Sortez vos skates, vos BMX. On va s'écouter Blink 182, I won't be home for Christmas.
Christmas time again. It's time to be nice to the people you can't stand all year. I'm growing tired of all this Christmas cheer. You people scare me. Please stay away from my home. If you don't want to get beat down, just leave the presents and then leave me alone. Christmas time again. It's time to be nice to the people you can't stand all year. I'm growing tired of all this Christmas cheer. You people scare me. Please stay away from my home. If you don't want to get me down, just leave the presents and then leave me alone.
Voilà, c'était Blink 182, Won't Be Home for Christmas. Vous êtes bien sur Radio Béton 93.6. Nous sommes toujours en direct de la mairie de Tours dans le péristyle à l'occasion du marché de Léon. On va revenir dans le temps, il y a 35 ans.
Tout à fait.
Hein, le régime de Ceausescu vacillait en Roumanie. N'est-ce pas, Nadia?
Voilà. Alors, c'est un livre qui est écrit par une Américaine d'origine lituanienne et qui raconte la Roumanie avant la chute du mur de Berlin et de ses conséquences sur les dictatures de l'Est. Ça s'appelle « Si je dois te trahir » de Ruta Sepitis aux éditions Folio. Fin 1989, Christian est un adolescent. Il ne connaît rien d'autre que la Roumanie de Ceausescu. Il se passionne pour la poésie et la philosophie, mais il sait qu'il doit taire cette inclinaison qui ne cadre pas avec la dictature communiste. Il apprend l'anglais pour comprendre les chansons qu'il écoute illégalement. Et c'est aussi l'occasion d'être dans la même classe que la belle Liliana. Bref, c'est un adolescent, quoi. Je me rends compte que j'avais complètement oublié ce qu'était la Roumanie, le quotidien de la Roumanie à cette époque, c'est-à-dire les appartements exigus, souvent sans chauffage en raison des restrictions. Les Romains dorment avec leurs manteaux. Et son grand-père, le grand-père de Christian, dit avec humour que Dante s'est trompé, l'enfer est froid. C'est la seule personne avec laquelle Christian peut s'exprimer librement et encore en sortant sur le balcon pour éviter les micros de la Securitat. Son grand-père était un opposant et a souvent été incarcéré. Après 12 heures de travail, il faut faire la queue devant les magasins vides, alors le nécessaire est obtenu avec les trafics de cigarettes étrangères pour payer des bakchiches. Dans la famille de Christian, on réserve les cigarettes pour acheter des médicaments pour le grand-père qui a une leucémie. Christian s'étonne du conformisme de ses parents, de leur silence. Tout le monde est potentiellement un informateur. Alors même au sein des familles, les échanges sont limités car chacun soupçonne l'autre. Le régime les dresse les uns contre les autres. Malgré lui, Christian va tomber dans les raids de la Securitat. Comme presque tout le monde, mais ça il ne le sait pas. Il raconte la pression exercée, les conflits de loyauté, les ruses pour feinter l'ingénieur, la peur d'être découvert, rejeté, etc., etc. Dans ce pays moche et morose, où aucun projet n'est possible, il reste encore quelques espaces de liberté avec les radios clandestines et les cassettes de contrebande. Les adolescents roumains se demandent si ce qu'ils voient existe vraiment, s'il y a un pays où on peut faire des choix personnels. C'est dans les guides touristiques étrangers qu'ils lisent les critiques des pays, de leur pays. Comme la mère de Christian travaille à l'ambassade américaine, il va avoir l'occasion de lire les informations dans le Time. Et puis un jour de décembre, la société se met en branle et débute la révolution. La lecture de ce livre que j'ai pris alors tout à fait au hasard est une très bonne surprise. L'histoire racontée est passionnante parce qu'elle montre à travers le regard d'un adolescent le quotidien d'une dictature, l'enfermement d'un peuple et les moyens de résistance. On se souvient du couple Ceausescu gisant après leur exécution. On peut comprendre à travers ce récit pourquoi la violence de cet acte. Évidemment, la lecture de ce livre arrive en coïncidence avec l'actualité en Roumanie et interroge forcément sur le rapport à l'histoire et l'aliénation issue de la soumission. Donc c'est vraiment un très beau roman que je vous conseille vivement. Ça s'appelle « Si je dois te trahir ». Bon, je trouve que le titre n'est pas terrible. De Ruta Sepitis, chez Folio.
Peut-être une question de traduction.
Peut-être.
Ce titre. Merci beaucoup, Nadia, pour cette virée en Roumanie d'il y a 35 ans. C'est déjà Noël, des poches sous les yeux. L'émission vous prépare le plus beau des cadeaux, une chronique d'Olivier Pion.
Merci. Donc « Mes fragiles hein, », »,« Mes fragiles » de Jérôme Garcin. Alors les fragiles du titre, ce sont la mère et le frère de Jérôme Garcin qui ont eu la mauvaise idée, mais je ne crois pas que c'était prémédité, de mourir à quelques mois d'intervalle. Hein, la première de vieillesse, le second après avoir chopé le Covid. Laurent, c'est son prénom, était atteint d'une maladie génétique baptisée l'X fragile qui entraîne un certain nombre de symptômes plus ou moins invalidants, dont certains ont constitué, au moment de la pandémie, vous savez, ce qu'on a coutume d'appeler des comorbidités. Alors, si j'en crois mon excellent ami Jean-Pierre Wikipédia, en médecine, la comorbidité désigne la présence d'un ou de plusieurs troubles associés à un trouble primaire. Donc déjà, quand tu as plusieurs maladies simultanément, on peut dire que ce n'est pas terrible. Hein. Mais le truc des comorbidités, c'est qu'en plus, leurs traitements ont tendance à se contrarier fâcheusement au point de réduire les perspectives de guérison à peau de balle. Et là, c'est vraiment ce qui s'appelle être poursuivi par la mouise. Et donc, en lisant le livre de Jérôme Garcin, je me suis demandé si on ne pouvait pas étendre la notion de comorbidité à des dérèglements d'ordre non plus pathologique, mais moral. Par exemple, si tu es en même temps con et méchant, est-ce que c'est un cas de comorbidité? Ou si tu es, je ne sais pas moi, un homme d'église et un prédateur sexuel, c'en est un ou pas? Ou alors, tiens, si tu es à la fois mégalomane et cupide, est-ce que c'est de la comorbidité ou juste un malheureux rapport de cause à effet qui s'appelle Orio El Capitalismo? Je pose la question. Je pensais à ça l'autre jour en apprenant par hasard qu'un juge une juge du Delaware hein, a bloqué une décision des actionnaires de Tesla, le constructeur de bagnoles toutes moches, visant à attribuer à Elon Musk, son patron, un plan de rémunération de, tenez-vous bien, 55,8 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du truc, 55,8 milliards de dollars. C'est l'équivalent de 53,1 milliards d'euros, soit ce qu'il est permis d'appeler une somme rondelette. Pour vous aider à visualiser, il faut imaginer 106,2 millions de bifetons de 500 euros empilés les uns sur les autres pour faire une liasse de plus de 12 km d'épaisseur. Tu as plutôt intérêt à avoir un portefeuille super costaud. En même temps, je me dis que quand tu as 53 milliards d'argent de poche, tu as de quoi t'acheter des portefeuilles de qualité supérieure. Mais la question que je me pose justement, moi qui n'ai jamais eu plus de 12,50 euros sur mon compte épargne, c'est quand tu es super riche, hein, qu'est-ce que tu peux bien faire hein, de ton super fric? C'est vrai, tu ne vas pas faire 150 repas par jour ou te torcher le derche avec des billets de 100 dollars ou te faire faire des slips sur mesure en or massif avec une ceinture en diamant.
Ou en peau de caribou.
Ou en peau de caribou éventuellement. Et même ça, tiens, même à supposer que tu te fasses faire des slibards en or massif avec une ceinture en diamant qui coûterait genre, je sais pas moi, 100 000 boules pièces. Ça veut dire que pour dépenser 53 milliards, j'ai fait le calcul, il faudrait que tu en changes 20 fois par jour pendant 75 ans. Franchement, même si tu es super entraîné et méga souple, le temps de baisser ton falzard, d'enlever ton vieux slip et d'enfiler le nouveau, ça prend quoi? Au moins 2 minutes en moyenne, 3 peut-être, parce que là on parle d'un slip en or massif avec une ceinture de diamant. Donc faut pas oublier. Alors au niveau bling bling, je veux bien croire que ça claque un peu, mais pour ce qui est de l'élasticité, à mon avis, tu peux te brosser. Et donc tu passes quasiment tes journées à ça. Tu n'as pas du tout le temps de profiter de tous les petits plaisirs qui font que la vie peut être assez sympa quand tu y penses. Et puis il y a une chose qu'ils oublient, tous ces abrutis qui demandent des plans de rémunération de 55,8 milliards de dollars. C'est qu'au final, les asticots ne feront pas la différence entre un cadavre qui porte un slip en or massif avec une ceinture en diamant et un cadavre qui porte un slip 70% polyester, 30% fibres diverses, acheté en sol chez Lidl. J'ai pensé à tout ça en lisant le livre de Jérôme Garcin et aussi à la phrase de Jean Cocteau dans Le Grand Écart, son roman de 1923. Je cite « Malgré la différence des classes, la vie nous emporte tous ensemble à grande vitesse dans un seul train vers la mort. La sagesse serait de dormir jusqu'à cette guerre terminus. Mais hélas, le trajet nous enchante et nous prenons un intérêt si démesuré à ce qui ne devrait nous servir que de passe-temps qu'il est dur le dernier jour de boucler nos valises. » Oui, 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 c'est dur de se faire à l'idée qu'un jour ou l'autre, il va falloir lâcher la rente. Mais c'est encore plus dur pour ceux qui restent. Pour ceux qui, comme Jérôme Garcin, doivent apprendre à vivre avec leurs souvenirs, avec leurs regrets et leurs remords. Mais aussi avec le manque des joies passées qui viennent alimenter l'espoir des joies futures. Celles qu'on partage avec les gens qui, eux, sont encore là pour quelques temps. Alors mon conseil, si je peux me permettre de vous en donner un, ce serait passer donc un peu moins de temps à changer de slip, fût-il en or massif, et un peu plus à prendre soin de vos proches et aussi de vos moins proches, et aussi de vos collègues, et même de vos voisins, et pourquoi pas de gens que vous croisez vite fait à la boulangerie ou au marché de Léon, ou je ne sais où. Mais Fragile de Jérôme Garcin est édité chez Folio.
Merci, merci beaucoup Olivier pour tes conseils de bienveillance, de fraternité qui en cette période de Noël arrivent à point nommé. On a le plaisir de recevoir notre deuxième invité du marché de Léon. Voilà, c'est Étienne Bonnet qu'on a évoqué tout à l'heure quand Cloumy était au micro. Étienne, tu es un habitué de l'émission, tu es un vieux routard.
Ah bah, deux fois, je pense qu'on peut dire un habitué.
Bah, deux fois, bah, y a peu de gens qui peuvent se targuer d'une telle fidélité sur nos ondes. Voilà, donc tu persistes et tu continues ton aventure de dessinateur, de BDiste.
Tout à fait, on s'est vu l'an dernier du coup quand j'ai fait ma première BD auto-éditée où du coup, je commençais l'aventure. Du coup là on est à peu près un an plus tard. je continue l'aventure là avec Cloumi cette fois-ci. On traîne dans les bars de Tours, on fait des dessins ensemble, on en fait des BD, on les vend, on se fait de l'argent, on va dépenser cet argent en achetant des bières et on redessine. C'est le cercle vertueux.
Effectivement, parce que le propos de Happy Hour, le livret que tu as commis avec Cloumi, consiste à faire le tour des bars tourangeaux.
Oui, en fait, globalement, pour raconter l'histoire, avec Cloumi, on s'est donné ce rendez-vous de se retrouver chaque semaine pendant 2 heures le mercredi. On dessine ensemble et on boit des bières. Et en fait, ça permet, en fait, bière après bière, d'avoir une cirrhose d'un côté, mais surtout d'avoir une BD à la fin. Donc, on a essayé de miser plus sur la BD que sur la cirrhose.
Et chacun arrive avec son pactage d'idées, d'inspiration.
C'est ça, on a globalement un peu le même esprit, même si graphiquement pas totalement le même univers.
Mais t'es quand même un vachement meilleur dessinateur que lui. Enfin, il n'est pas là, on peut se le dire quand même.
Ah oui, non, mais c'est pour ça, moi, en fait, c'est surtout pour le soutenir. Sa famille m'a écrit, elle m'a dit il faudrait l'encourager un petit peu, donc c'est pour ça.
C'est bien, c'est beau.
Mais voilà, on a réussi à mélanger suffisamment nos univers, on est toujours d'accord pour raconter les mêmes histoires. Donc voilà l'idée globale derrière.
Alors, et donc le bar, fût-il Tourangeau, est un bon lieu pour l'inspiration?
En fait, Cloumi comme moi, on est des autodidactes, ce qui fait qu'on n'a pas du tout pris de cours de dessin et on a appris à dessiner dans des lieux complètement absurdes. Et moi, dans mon cas, c'est surtout les bars, en fait. J'ai surtout appris à dessiner en traînant dans les bars, en dessinant les gens qui sont là, parce que c'est souvent des gens qui bougent pas, qui sont fixes. On peut prendre une boisson en même temps, on a une table, c'est vraiment l'idéal. C'est un très bon lieu pour apprendre à dessiner, alcool ou non.
Il n'y a pas trop de meufs qui viennent vous déranger, genre « ouais, j'adore ce que tu fais
hein. ». Si, mais c'est pour ça on se déguise à chaque fois qu'on y va, parce que
incognito.
Trop de succès.
Ok. Et donc, à la suite de cette épopée tourangelle, c'est quoi le top des bars qui vous donne l'inspi ou qui est le lieu des meilleures rencontres?
Notre lieu préféré, c'est la Grande Ourse. C'est d'ailleurs là-bas qu'on s'est rencontrés en vrai. Mais la Grande Ourse a fermé.
Mais oui, c'est ça.
Nous sommes les orphelins de la Grande Ourse. Ça aurait pu être le deuxième nom de ce livre.
Comme c'est beau. Ou bien le nom d'un groupe, puisque maintenant, ils nous sortent des noms de groupes comme c'est pas
possible. C'est beau, ça, les orphelins de la Grande Ourse.
Oui, c'est très bien. Alors, tu as commis d'autres volumes? L'année dernière, on s'était rencontrés pour...
La saison des asperges.
Voilà, la saison des asperges où on était en pleine autofiction agricole. Tu as fait un autre volume récemment.
Tout à fait, pour parler de mon expérience en atelier chez un auteur de bande dessinée de science-fiction à Sandal, bien connu de la ville de Tours, hein, du prénom de Serge.
Serge Pelé. Et donc, il t'a permis ça ou c'est un truc que tu as fait en loose day ?
Je l'ai fait dans mon coin, comme je fais toujours mes carnets. Puis à la fin, comme d'habitude, je lui ai montré. Je lui ai dit, si tu veux que j'édite rien, je ne l'édite pas. C'est reste pour moi, si je peux l'éditer, voilà. Et lui, il m'a dit, je m'en fous. Comme il dit souvent.
D'accord, et t'as demandé un pourcentage sur les ventes?
Pas du tout, mais du coup...
Curieux, parce que d'habitude...
Non, ça va, on s'entend bien. Je vais payer une bouteille.
D'accord, si tu le corromps, effectivement, tout est possible.
Il n'y a que comme ça que ça marche.
D'accord. Et donc, de cette expérience, de cette cohabitation avec Serge...
Du coup, moi, j'en tire beaucoup de progrès en dessin aussi, parce que l'avantage d'être avec Serge, c'est qu'aussi c'est un des plus grands dessinateurs dans cette ville, quoi. Donc, moi qui arrive avec vraiment ma formation dans les bars, y a plein de trucs que je sais pas faire. Je suis incapable de tirer une ligne d'horizon ou de tirer une ligne de perspective. Donc là-dessus, lui, il vient m'engueuler, il vient m'expliquer comment faire.
Parce qu'il ne dessine pas dans les bars. Parce que moi, je le vois souvent dans les bars.
Alors ouais, dans lui, c'est pour le coup, je crois qu'il dessine plutôt à domicile, mais malgré le temps qu'il passe dans les bars, tout à
d'accord.
fait.
D'accord. Ok, et donc ça a été un peu ton Jedi.
Exactement, c'est mon maître Jedi, tout à fait.
Voilà. Tu as appris quelques trucs.
Tout à fait.
Que toi-même tu essaies de passer à Cloumi ou il reste hermétique à ce genre de considération technique.
Non, Cloumi, on n'est pas d'Awentou, on est tous les deux nuls, donc du coup on s'entraîne plutôt vers le bas.
Ok. Bon, d'autres projets à l'horizon, Étienne? C'est quoi ton prochain boulot que tu veux
Là, je bosse sur un film d'animation. Un court-métrage d'animation. Je fais aussi un peu d'animation à côté. Le dernier que j'avais fait avait été sélectionné pour Annecy. Donc, j'étais super content. Donc, ça me donne envie d'en refaire un.
Quelle technique?
De l'animation 2D, vraiment dessin animé à l'ancienne, on va dire. Même si c'est fait à la tablette.
Ah, oula, dis donc, ça doit décoiffer Cloumi, ça, le fait que tu sois à la tablette.
Il est soufflé. Il est assez étonné, il est jaloux. Et à côté de ça, essayer de trouver une maison d'édition peut-être pour des projets BD. Donc je continue à faire mes projets BD à côté, mais des fois, niveau temps, c'est toujours un peu compliqué. Donc c'est...
D'accord. Et tu es venu avec un petit opus.
Exactement, vous m'aviez proposé du coup de venir faire une petite chronique d'un livre qui me plaisait. J'ai pas mal réfléchi et je me suis dit, je suis pas un immense connaisseur en BD. Au final, j'ai plutôt une culture cinéma-musique. J'essaie de me rattraper en lecture et en BD. Et du coup, je me dis, tiens, celui-là, il sort un peu de l'ordinaire. Je vous ai ramené un livre de la collection Pattes de Mouche, qui est une collection de tout petits livres, de tout petits ouvrages d'une quinzaine de pages à des prix ridicules.
Ouais, de l'association, ouais.
C'est ça. Là, je vous ai ramené La Bouteille, écrit par Lewis Trondheim et dessiné par Alfred, qui est vraiment mon préféré dans cette collection, qui est un petit récit de 15 pages qui raconte en fait l'histoire d'une famille qui ne sait pas quoi faire de la bouteille qui a fait trébucher le grand-père, le doyen de la famille, qui est mort suite à cette chute. Et en mode, qu'est-ce qu'on va faire de cette bouteille? Et c'est juste des discussions entre ces personnages et un autre personnage qui randonne dans la forêt en même temps. C'est très drôle, c'est très poétique, ça dure 15 pages, c'est ultra efficace. C'est vraiment le genre de livre qui me dit, mince, c'est vraiment pour ça que je veux faire de la BD, pour être capable de faire des choses comme ça.
Bon, merci beaucoup pour tes conseils. Voilà, on te retrouve, Étienne, sur le stand du marché de Léon.
Tout à fait.
Alors, que proposes-tu au Badaud ?
Donc du coup, les bandes dessinées dont on parlait juste avant. Et après, je fais aussi pas mal d'illustrations à côté. Donc j'ai une cinquantaine d'illustrations différentes, sous différents formats. Des originaux beaucoup trop chers, des prints beaucoup moins chers et des cartes postales pas chères du tout. Donc,
Parfait. Voilà. Écoutez, rendez-vous sur le stand d'Étienne et de Cloumy pour découvrir leur univers graphique. Et merci à toi d'être venu jusqu'à nous partager. Donc on se le rappelle, au-delà de tes volumes auto-édités, La Bouteille de Lewis Trondheim et Alfred, paru à l'association.
Tout à fait, merci beaucoup pour
l'invitation. Merci à toi. Tout à l'heure, c'était une question de skate et de BMX. Là, ça va être plutôt une ambiance bière tiède avec les Ramones.
Merry Christmas, I don't want to fight tonight with.
Aïe, 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 c'était donc les Ramones avec Merry Christmas. Dis donc, on ne serait pas un petit Fred Vargas ?
Ah bah on peut, hein. Je viens de finir sur la dalle de Fred Vargas. Alors c'est vrai que la production de Fred Vargas, elle est assez, je dirais, aléatoire. Il y a eu des bons romans, des très bons romans, même avec cet inspecteur Adamsberg, un peu atypique. Ouais, tu connais, hein, t'en as lu plusieurs, j'imagine.
Bien sûr.
Philosophe, lunaire, qui résout ses enquêtes un peu par des biais détournés par la bande. Je pense par exemple à Parvite et revient tard,
hein,
L'homme au cercle bleu,
oui.
Ou L'homme à l'envers aussi. Enfin, yes. Voilà quoi. Et puis il y a d'autres romans, non, c'est moins bien, c'est nettement moins bien quoi. Et alors sur la dalle, ça se déroule en Bretagne, ça se déroule à Louviec exactement, entre Dinan et Rennes. C'est près de Combourg qui tire sa fierté de Chateaubriand. Alors Chateaubriand, je te parle pas de la pièce de bœuf, hein, je parle de l'écrivain.
J'en ai mangé un le week-end dernier de Chateaubriand.
Ouais, c'est bon ça. Hein,
ouais, c'est pas mal.
Bon, l'écrivain c'est un peu plus, c'est moins digeste. Hein, bon. Mais Chateaubriand qui a passé son enfance dans le château familial local, qui avait été acquis par son père, qui était un riche armateur malouin. Il avait acquis ça auprès d'un duc dans le besoin, sûrement, hein, une vieille famille aristo, probablement. Donc cette particularité touristique littéraire, on va dire, alimente en partie l'intrigue qui joue dans cette petite cité bretonne. Il y a toute une série de meurtres à tiroir, dont l'évidence des indices motive la méfiance d'Annesberg. Des évidences beaucoup trop évidentes pour être honnête. Ouais, c'est vrai, on est un peu loin de Paris. Hein, c'est vrai, la Bretagne, on est un petit peu loin de Paris. Mais l'inspecteur Mathieu, qui est en charge de l'enquête, avait déjà sollicité Adamsberg, officieusement, hein, pour l'aider dans ses investigations. Ça, c'était avant qu'Adamsberg ne soit officiellement affecté en renfort au commissariat de Rennes. Et ce, avec toute son équipe. Hein. Voilà, il n'y a pas de problème d'effectifs, etc. On la voit toute l'équipe là-bas. Et puis des renforts, il ne va pas en manquer non plus. Hein. Louviec, à un moment donné, ça ressemble presque à un camp de vacances du ministère de l'Intérieur. Il y a des CRS, il y a la gendarmerie, enfin, il y a tout le monde. Quoi. Ils arrivent en hélico, enfin, c'est délire. Quoi. Bon, alors, ce roman, il démarre un petit peu lentement, hein, comme un diesel, un petit peu lentement. Ça se traîne jusqu'à la moitié, avec une petite accélération dans le dernier quart du bouquin.
Ok, c'est un diesel,
bon.
Quoi.
Bon, ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Bon, je vous le dis tout de suite, c'est pas le meilleur bouquin qu'elle ait écrit. Hein. Franchement, je dirais même que c'est poussif. Et franchement poussif.
T'exagères, Jimmy.
Non, c'est vrai que j'ai eu du mal à rentrer dedans et surtout y rester. Il y a des trucs un peu gros quand même. Hein,
il a eu du mal à rentrer dans Fred Vargas.
Ouais. Voilà, oui, bon. Oui, on va pas épiloguer. Hein, voilà.
Non.
Il y a quand même des trucs super gros. Hein, tu vois, les super pouvoirs de Rétancourt. Alors, Rétancourt, tu vois, c'est un morceau de nana, quoi. Tu vois, Violette Rétancourt, elle est rompue au combat, solide à l'assaut. Mais de là à péter des menottes juste en forçant dessus, franchement, à part les héroïnes de Marvel, je vois pas. Hein. Ouais. Et puis l'armée de flics, il y a une quantité de flics incroyable qui a été déployée pour cette enquête, en sachant que les effectifs de la police ne sont pas malins. Bon, ouais, c'est juste un
Retailleau, ça va.
Hors norme. Bon, et puis il y a aussi des trucs qui sont un petit peu curieux, quoi. Il y a une espèce de datation de dolmen qui est datée à 1000 ans avant Jésus-Christ. Alors pour moi, les dolmens les plus récents, c'est 3000 avant Jésus-Christ, quoi. Et pourtant, elle est archéo, quoi.
Bah enfin, oui,
bon,
c'est ça.
Alors, je sais pas. Peut-être que c'était une poussée.
Mais tu sais, quand on a passé les 65 ans, ça va très vite. Hein.
Ouais. Bon, bref. Je suis quand même allé au bout du bouquin, hein, jusqu'à la dernière ligne.
Merci. J'espère bien.
J'aurais bien repris mes magazines Science et Vie que j'avais en retard, mais bon, j'ai quand même décidé de faire une chronique et je l'ai faite. Enfin, pour vous dire, il y a aussi José Dayan, hein, parce qu'à croire que Vargas, elle ne fait plus que des bouquins pour faire des scénarios. Elle a fait une adaptation en deux épisodes d'une heure trente, quand même, hein, dans la même veine que ses précédentes adaptations. C'est pas le pire qu'elle ait fait. Hein, voilà. Yvan Attal s'en sort plutôt assez bien en Damsberg, mais ça ne marquera pas ses carrières d'acteur. Hein, bon. Il ne va pas ramasser une palme avec. Hein, ouais. Bon, vous l'avez compris, j'ai pas vraiment aimé. Alors, vous pouvez déplacer l'adverbe comme vous voulez, ça marche aussi bien. Hein, voilà. Donc, Fred Vargas, sur la dalle, ne l'achetez pas.
Oh. Merci, Jimmy. Donc, vous avez fait une économie de 8,90 € grâce à Jimmy. On a le plaisir d'accueillir un nouvel exposant, qui est d'ailleurs une exposante, du marché de Léon Sandrine Housseau, qui nous fait le plaisir d'être avec nous.
Bonjour.
Parle dans le micro.
Bonjour.
Voilà, tu vois, il marche le micro.
C'est merveilleux.
Merci d'être avec nous.
Merci à vous de m'accueillir.
Alors, Sandrine, tu es une habituée du marché de Léon.
Oui, tout à fait. Ça fait la quatrième année.
Quatrième année.
Ouais.
Alors, parle bien dans le micro.
Oui.
Oui, parfait. Parce que tu as une très belle voix en plus.
Oh, c'est magnifique.
Et donc, tu fais des objets qui sont dignes d'un cabinet de curiosité.
Oui, absolument. Je ramasse en fait dans la nature tout ce qui est mort, sec, fané, défleuri. Je leur donne une seconde vie protégée sous des globes. L'idée, c'est d'éveiller le regard des gens à cette nature défleurie avec des choses un peu décalées. Parce que ce qu'on trouve dans la nature, parfois, c'est un petit peu ragoûtant. Mais finalement, mis en scène, ça peut devenir très beau.
Voilà, ça peut être féerique.
Absolument. Donc, j'espère que ça l'est.
Mais oui. Et donc, cette inspiration, cette envie de magnifier des choses anodines de la nature, ça vient d'où ?
Ça vient de l'idée d'une seconde chance. On est dans une société qui juge tout, et souvent à l'apparence. Et finalement, encore une fois, si on veut bien... Parce que les gens s'émeuvent, c'est normal quand la nature est en fleur, mais pour qui veut bien ouvrir les yeux après cette floraison, finalement, c'est assez magique. Moi, je trouve qu'on n'est entouré que de beauté, et souvent, on passe à côté. Donc, c'est l'idée d'une seconde chance.
Historiquement, ces globes, qu'est-ce qu'on mettait sous ces globes?
C'était souvent les bouquets de mariés, ou même certains, c'était des bonnets tourangeaux à l'époque. C'était un artisanat assez local, mais il y avait effectivement aussi ces bonnets brodés. C'était beaucoup de broderies, mais aussi et surtout les bouquets de mariés.
Oui, parce que moi, chez ma belle-mère, il y a le bouquet de mariés de sa mère, effectivement.
Ouais. Et il y avait même des significations. Je sais qu'il y a les fleurs d'oranger. Il y avait aussi pour les filles non mariées.
Je vais pouvoir te revendre le globe un jour.
Écoute, si je te ferai une création.
Si j'arrive à le choper comme ça.
Ouais, je te ferai une création.
Et donc, parce que là, finalement, tu détournes l'objet initial.
Oui, oui, oui. Après, le globe, si tu veux, ça s'est un peu imposé parce que finalement, ces végétaux, c'était inimaginable de ne pas les protéger. Il fallait les mettre à l'abri de la poussière. Mais le fait de les avoir mis sous des globes de verre, finalement, ça crée un univers aussi un peu à part. Et ça donne cette connotation de cabinet de curiosité, d'univers un peu... un peu féerique.
Et donc, qui s'intéresse à tes créations?
Eh bien, écoute, j'ai beaucoup de chance, parce que beaucoup de monde. alors, quand même, principalement les femmes, mais les hommes, quand c'est un petit peu plus avec avec des crânes d'oiseaux, des choses comme ça, quand c'est plus, cabinet de curiosité avec des insectes.
Fantastique,
un peu, voilà. Et les enfants, parce que les enfants, en fait, moi, j'ai ce regard d'enfant d'émerveillement, et quand je ramasse tel des petits trésors, il y a beaucoup d'affect dans ce que je ramasse, quoi. Donc,
on est quand même dans une ambiance de muséum.
Oui, tout à fait.
Qui va très bien, finalement, à la découverte et aux yeux sans jugement des enfants.
C'est ça, absolument. Ouais, tout à fait.
Et donc, ça marche bien, puisqu'on te voit régulièrement.
J'ai la chance de pouvoir en vivre. C'est déjà un luxe depuis 7 ans maintenant. C'est mon métier.
Magnifique.
Je trouve ça assez magique.
D'accord. Donc, tu te promènes dans la forêt, tu ramasses
Alors, pas que dans la forêt, parce qu'en fait, c'est assez... universel. Moi, je scanne dans la nature, mais aussi quand je me balade, et même en ville. Il y a même des trésors parfois dans les caniveaux. Donc, on trouve plein de choses.
Bon.
Voilà.
Qu'est-ce que tu traites dans les caniveaux?
Mais des fois, il y a des choses sympas, même dans le caniveau.
OK. Bon, donc c'est à la campagne, mais aussi en ville.
C'est tout le temps. C'est okay. H24. Ouais.
Bon. Et il y en a pour toutes les bourses?
Oui, absolument. Les premières créations sont à 20 euros. C'est des petits globes, des petits précieux. Je les appelle les petits précieux. Mon précieux. Et puis après, évidemment, avec des formats beaucoup plus importants, jusqu'à 500, 600 euros. Ça dépend aussi de la...
Mazette.
Voilà.
Il faut attendre ses étrennes pour
faire
ça.
C'est ça.
Très bien. Est-ce que tu nous as amené...
Je suis à l'arrache. Je n'ai pas le livre parce que c'est un livre qu'on m'avait prêté.
D'accord. Et tu aurais voulu parler de quel livre et qu'est-ce que tu en aurais dit si...
Alors, si on m'avait invité pour un livre,
au hasard.
Un livre d'Olivier Norakin.
Oui, bien sûr.
J'ai une copine qui m'a conseillé cet écrivain qui est absolument incroyable.
Dans
et
les
j'ai
brumes
commencé...
de Coplance.
Absolument.
Donc, tu l'as commencé?
Ah non, mais je l'ai lu, lu en janvier. Et je n'ai pas pris ma petite fiche de lecture.
On ne peut pas tout faire.
Exposer, voilà, qu'est-ce que tu veux. Non, c'était un sacré...
un thriller.
Ouais, absolument. Mais effectivement, c'est quelqu'un dont on parle beaucoup maintenant. Mais tant qu'on n'a pas lu, je pense qu'on ne peut pas comprendre. Parce que c'est quand même quelqu'un qui a l'art et la manière, dès les premières pages, de vous harponner et jusqu'au bout.
It's a page turner.
Yes. Le rythme, le style, tout emmène, c'est magique, c'est vraiment magique, c'est très prenant. Et puis les brumes, c'est les brumes, quoi. Il y a un espèce de climat très pesant. J'ai même eu des moments où lorsque je levais les yeux de mon livre, comme il y a cette espèce de climat d'oppression, de brume, où je ne voyais pas en face le brouillard.
Et pourtant, tu avais tes lunettes.
Et pourtant, j'avais mes lunettes. Non, c'est assez dingue. C'est brillant.
Bon.
C'est brillant.
Donc, en tout cas, ça donne envie de découvrir Dans les brumes de Coplance d'Olivier Norek, qui est publié chez Michel Lafond et qui a eu le prix Babelio 2022. Donc, c'est un prix de lecteur.
Je l'ignorais, mais voilà. Je suis... Voilà.
Merci beaucoup Sandrine.
Merci à vous.
Voilà, donc tous les auditeuristes qui viennent au marché de Léon pourront découvrir tes créations sous globe à ton stand.
Merci à vous, à merci à Radio Béton.
Bon, j'espère que vous avez fini votre bière tiède. Prenez votre ticket de métro parce que c'est les Wampas qui nous transportent.
Ce soir, c'est Noël, les étoiles brillent dans le ciel. Ce soir, c'est Noël.
La voix de Didier Vampas, c'est Noël. C'est à moi que revient le privilège de conclure cette émission. Et en cette période de Noël, je vous propose deux bons plans pour essayer de retrouver les traces du Père Noël, justement. Et le premier, c'est de prendre la direction du nord jusqu'à l'archipel du Svalbard. Je n'avais jamais entendu parler de cet endroit jusqu'à ce que mon copain Charlie m'en parle et me mette cette idée dans la tête. Il a un projet de film sur le Svalbard que j'attends avec impatience. Alors quand moi je suis tombé sur le bouquin « L'Odyssée de Sven » de Nathaniel Yann Miller paru chez J'ai lu, je me suis dit que justement en attendant les images de Charlie, je pouvais profiter de ce livre pour partir à l'aventure dans le Svalbard. Et quelle aventure ! Au début du XXe siècle, un jeune Suédois désœuvré, Sven, poussé par sa sœur, s'embarque pour le Svalbard pour y travailler dans les mines de charbon. Sven rêve d'étendues glacées, à perte de vue, d'aurores boréales, d'ours polaires, de morses, mais certainement pas de bosser dans une mine de charbon. Alors forcément, il déchante, jusqu'à, heureusement pour lui, qu'un accident gravissime ne le tue pas, mais l'éloigne de la mine. Alors il va devoir se recycler, hein, jusqu'à devenir trappeur. Et c'est là que l'aventure commence vraiment. Parce qu'il va falloir qu'il découvre ces étendues désertiques, découvre la solitude, rencontre quelques personnages qui errent sur ces étendues glacées. Bref, qu'il devienne un homme dans ces pays nordiques. Avec l'Odyssée de Sven, j'ai pas découvert le Père Noël, mais je suis parti loin et pour moins de 9 euros. Alors je vous conseille chaleureusement cette épopée norvégienne, l'Odyssée de Sven, de Nathaniel Yann Miller, paru chez J'ai lu. Et après ça, nouvelle tentative pour aller sur les traces du Père Noël, un peu plus à l'est, vers la taïga du nord de la Russie, changer de période aussi, et nous sommes dans un futur indéfini, dans une sorte de monde d'après, un peu ambiance dystopie. C'est Marcel Théroux qui nous propose ce voyage avec « Au nord du monde » paru chez Zulma. Et cette fois-ci, c'est une femme qui va nous servir de guide. Elle s'appelle la bien nommée Make Peace. Voilà, drôle de nom, un peu peut-être indien, on ne sait pas. Elle semble l'unique rescapée de ce monde d'après. Voilà, tous les autres semblent s'être entretués ou avoir succombé à je ne sais quelle maladie. Mais Make Peace garde en elle un indicible espoir de retrouver ses semblables avec qui faire société. Elle s'accroche à tout ce qu'elle peut. Ses souvenirs, bien sûr, mais aussi des choses un peu plus concrètes. Un avion qui passe au loin. Et puis un jour, ping. Ping, qui est-ce ? C'est un être humain, voilà. C'est même plus qu'un être humain, c'est une femme enceinte. Et donc, avec Ping, Make Peace doit maintenant s'organiser pour survivre à deux et bientôt à trois. Voilà, donc c'est une sorte de western, ou devrais-je dire une sorte de eastern, puisque ça se passe dans l'Est. Un eastern glacé et dystopique. Bien entendu, il ne sera pas question de Père Noël dans Au Nord du Monde, ni pas plus que dans l'Odyssée de Sven. Puis vous le savez bien, le Père Noël n'existe pas, ou s'il existe, c'est en chacun de nous. Hein, c'est notre part de générosité inconditionnelle que je vous souhaite de cultiver par ces mondes troublés. Et c'est par ces paroles à haute portée philosophique que s'achève cette nouvelle émission de la quatrième saison de Des Poches sous les yeux, l'émission avant de rendre l'antenne. Et pour ceux qui sentent en eux poindre l'ombre d'une fibre littéraire, demain sera lancé le célébrissime concours de micro-nouvelles 93.6, 93 mots pour le texte, 6 mots pour le titre, organisé par Radio Béton, en partenariat avec l'Université de Tours et la Bibliothèque municipale de la ville de Tours. Il aura pour thème cette année, quel chantier ? Alors, sortez votre truelle, votre stylo, et mettez-vous à l'écriture. Excellent. Rémix n'est pas là, mais on pense à toi, Rémix. Un grand merci aux chroniqueurs, Pascal à la technique qui a fait des acrobaties magistrales, chers auditeurs. Vous êtes les bienvenus aujourd'hui et demain au marché de Léon Péristyle de la mairie de Tours pour faire le plein de cadeaux. Nous, on se retrouve l'année prochaine, bien sûr, le 25 janvier, je ne sais où, dans un autre haut lieu de la culture tourangelle. Pour découvrir nos émissions, allez sur notre site de podcast, podcast-radiobéton.com. On vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Et voilà, et puis d'ici là, lisez où vous voulez, mais lisez.
Des poches sous les yeux, l'émission.